On va passer maintenant à Marine, qui va nous parler de Marie et les garçons. Plus en détail, c'est parti, je crois, si j'ai bien suivi l'affaire, d'un petit coup comme ça, d'un petit coup de calgon de Patrick Vidal, qui en avait marre qu'on parle du polo Lacoste, de Marie et les garçons. Et ça a donné l'idée à Marine de faire une petite intervention. Et pour introduire la performance, mais la communication performance de Marine, on va voir le Marie et les garçons de Georges Rey, qui vont donc introduire la communication de Marine. Merci. Alors, Marine vient de l'Université de Rennes, elle est docteure, elle est historienne de l'art.
Oui, donc je commence. Donc, il y a quelques semaines, Patrick Vidal prenait la parole sur Facebook pour revenir sur la dimension esthétique de Marie et les garçons et son contenu contre-culturel. Alors, il a intitulé ce texte « Marie et les clichés ». Donc, je vais vous en lire un extrait pendant que Philippe installe l'extrait du film de Georges Rey que nous allons voir. Alors, je cite Patrick Vidal. « Plutôt que de sans cesse parler de ce fucking polo Lacoste et des canettes à Fourvière comme seul fait de gloire au sujet de ce groupe, je ne serai jamais en accord avec cette version étriquée et anecdotique de Marie et les garçons. Ne pourrait-on pas évoquer notre, ma passion pour le cinéma expérimental, l'art contemporain, la littérature US et française, underground, tous ces éléments qui ont forgé notre identité, cette retranscription d'un New York fantasmé et façonné par les films de Warhol et Morrissey, une évidence maintenant, mais beaucoup moins en 75 entre autres. Mais aussi notre réalité européenne, avec Schroeter, Fassbinder, Daniel Schmidt ou Carmelo Bene, avant de s'immerger dans cette même ville, pour enregistrer et faire un concert avec succès au CBGB. Alors, rapidement, pour l'introduction, donc je l'ai dit, cette communication s'appuie sur ce texte qui s'intitule « Marie et les clichés » et qui constitue pour moi une forme de manifeste esthétique. Enfin, on peut le considérer comme ça. Donc, je vais revenir sur certaines réalisations visuelles de Marie et les garçons, donc un groupe qui se forme à Lyon en 1976 autour d'Éric. Alors, à l'époque, il s'appelle Eliasson, mais bon, aujourd'hui, il fit aussi. Enfin, il a les deux noms, Marie Girard, Christian Fay, Jean-Marc Vallot et Jean-Pierre Charot. Et donc particulièrement les réalisations qui mettent en jeu des relations entre culture et création, entre son et image. Il faut savoir que Patrick Vidal, et je finis là-dessus, après un bac littéraire, s'est formé aux Beaux-Arts et a fait un an d'histoire de l'art.
Thank you.
on remercie chaleureusement Georges Ray, donc qui est l'auteur de ce film. J'y reviendrai après. Donc, il aurait été réalisé entre 77 et 78. On a pu voir à gauche donc Patrick Vidal à la guitare, et puis à droite Christian Eliasson, enfin Patrick Eliasson, Eric, je vais y arriver, et au fond Marie Girard. Alors, je reprends le cours de mon propos. Alors, la question de la place de Marie Les Garçons dans le punk peut être soumise à question. Mais on peut prendre comme point de référence leur participation à la deuxième édition du Festival de Mont-de-Marsan. Ils s'inscrivent dans le punk et en même temps, ils négocient les relations avec ce mouvement en permanence. Alors, pour finir cette introduction, les analyses devraient permettre donc de souligner certains aspects que l'on trouve dans l'historiographie du punk de façon plus générale, comme l'idée du punk comme avant-garde visuelle, également le lien entre le punk et la contre-culture, ou encore le punk comme totalité culturelle, au moment où Yves Adrien forge la notion de novo, et dont le sens vise à pointer l'évolution vers une musique totale. En 1981, dans Novo Vision, il écrit, je cite, « La pellicule capte l'image ». Le vinyle un jour captera la pensée, la musique alors sera un acte total, un échange silencieux entre les plus ultimes partenaires. La musique de Marie et les Garçons relève d'un processus créatif qui opère cet échange silencieux entre les plus ultimes partenaires, pour reprendre cette formule d'Yves Adrien. La musique de Marie et les Garçons agit à l'intersection des arts visuels et de la musique et intègre l'écriture dans cette équation depuis un point de vue qui renouvelle le rapport classique à l'inspiration. Patrick Vidal n'envisage plus l'écriture comme une opération à conduire ex nihilo, mais comme une activité vouée comme un interface à recueillir, pour les traduire en paroles, les sensations que lui procure la contemplation, l'écoute ou la lecture. Proche d'une écriture automatique, c'est le terme qu'il emploie, sa démarche pour écrire s'inscrit plus largement dans l'héritage des formes langagières modernistes issues du surréalisme ou de la Beat Generation. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette position-là forme un contraste finalement avec le refus du groupe de s'entraîner à jouer des morceaux qui existeraient dans le répertoire rock. Alors par exemple, Vidal écrit les paroles à partir d'une chanson, l'écoute de Gloria de Patti Smith en 75, dans une retranscription phonétique. Ainsi, les paroles de Gloria, « Jesus died for somebody's sins but not mine » se transforment en « Je suis Dieu, le PD fourgueur de Napalm ». Et c'est un élément qui reprendra dans un de ses titres house. L'automatisme qui se met au service ici d'une libération de l'inconscient qui subvertit précisément l'usage qu'en faisaient les surréalistes en termes de genre dans les années 20 en plaçant la muse ou la mante au cœur des désirs à révéler. On note également... Donc il y a le texte, le rapport aux chansons, il y a également la culture visuelle et musicale. Donc culture musicale que l'artiste Patrick Vidal se construit de façon autodidacte par un abonnement au NMI et par le biais scolaire. Donc il va mettre l'accent sur le baccalauréat littéraire à Saint-Exupéry au moment où il rencontre Kent, le frère de Marie et également Eric Eliasson. Et finalement cette culture visuelle aussi qui apparaît à ce moment-là va projeter l'art au centre du processus musical. L'ensemble de références qu'il se construit vient nourrir la structure automatique qu'il s'autorise à adopter pour écrire, je cite, « dans une inspiration incessante de films et d'images et de flashs ». Explorant les possibilités de l'automatisme au-delà du texte, Vidal se sert de toile pour écrire les paroles de ses chansons. Alors dans le film de Georges Ray, on a entendu en bande son le titre Groom 6. Alors Groom 6 précisément, qui est sur Rebop, j'en reparlerai, provient d'une toile de Jacques Monory. On a pu entendre que ce titre était marqué par un crescendo où le thème du vide visuel devenait l'occasion d'une exploration sur le vide existentiel et ce qui était constitué par la répétition du leitmotiv je ne suis plus là ou quelque chose comme ça. Si on compare un peu à ce que fait Monory, donc qui est un peintre qui commence à créer dans les années 60, on voit qu'il développe des thèmes comme la masse, un usage chromatique autour du bleu, une poétique qui est celle du déclin. Dans Death Valley No. 1, on assiste à une sorte de personnification par la peinture, de l'état de crise que traverse l'Europe, la France, la peinture, et tout ceci apparaît donc dans cette figure centrale du cavalier, repris de la mélancolie de Dürer, qui est ici donc contre-collé donc à deux toiles de Monory, donc qui représente le parcours dans le Nevada. Donc on a cette image du cavalier déjà vaincu qui fait écho aux pièces de musée à droite, desséchées. Et il faut souligner finalement comment cette culture visuelle peut faire écho au punk, dans la mesure où Death Valley fut créée quelques mois avant l'explosion à Paris, et en ce qu'elle montre des espaces et des figures comme brûlées à la chaux, une sensation de vacances qui nous fait penser à I'm Pretty Vacant de Johnny Rotten, et qui incidemment fait du crâne, on le voit, donc des crânes d'animaux, son symbole. Littérature, art visuel, mais aussi cinéma expérimental. Alors, on a vu le rôle de Georges Ray. Alors, le cinéma en particulier intervient autour de 1977-78 pour compléter ce dispositif à partir duquel Marie et les garçons développent des pratiques musicales impliquant des formes d'interaction entre son et image. Les questions de monstration de la musique, de jeux, de scènes sont prises en compte comme des sujets à part entière. L'image en mouvement a été vécue et expérimentée par les musiciens et Georges Ray comme une occasion très physique aussi d'expérimenter la mobilité entre les musiciens et le groupe sur d'autres films, notamment donc quand le groupe joue entouré de moniteurs avec de la neige. Et puis finalement tout ceci correspond à l'idée de Patrick Vidal de sortir de ce rapport frontal dont il parle entre le public et le groupe. La façon dont Vidal choisit de produire du texte, voire la musique dans un rapport organique aux images, recoupe l'un des critères définitoires que Jameson, donc le philosophe américain, avait proposé pour penser le postmodernisme en 1984. Donc c'est un texte, enfin c'est un ouvrage qu'il commence par la confrontation de deux toiles représentant des chaussures, l'une donc celle de Van Gogh représentant le haut modernisme et celle de Warhol représentant le postmodernisme, dont il parle comme de simulacres vitreux, sans ton ni fond, suspendus dans un vide glacé. Et pour orchestre, enfin pour commenter finalement cette fracture entre les deux modes de représentation, il va mettre en place une série de critères. Donc il va parler par exemple de la marchandisation, du nouveau type de platitude, du déclin de l'affect, mais surtout, c'est moi qui mets l'accent, du passage du verbal au visuel. Et c'est précisément ce qui se produit avec Marie et les garçons dans la façon d'envisager la création. Donc considérer le cadre postmoderne pour revenir sur le parcours de Marie et les garçons semble périlleux, mais peut-être aussi fructueux, puisque Jameson abordait précisément les formes visuelles par une autre expression, qui est celle de l'euphorie décorative. Et à cette euphorie décorative, précisément, Marie et les garçons y ont pris part en investissant le graphisme, les pochettes, comme un espace créatif à part entière. Alors, je vais essayer d'être assez rapide sur l'analyse des pochettes, même si on pourrait y passer beaucoup plus de temps. Ce qui apparaît finalement, le premier élément qu'on peut voir, c'est l'idée que la logique culturelle mise en place en particulier dans les trois graphismes principaux, donc j'en ai mis que deux. Bon, on verra le deuxième, mais il faut savoir que le premier single Rien à dire avait été aussi réalisé par Patrick Vidal et Lizzie Mercier-Desclous. Donc, mais je vais parler tout de suite donc de Marie et les garçons Rebop. Alors donc on le voit, cette œuvre-là est un pastiche. On le voit mieux ici, est un pastiche de deux œuvres, enfin une espèce de synthèse finalement de deux œuvres de Hockney, donc qui reprend à la fois de Portrait of Nicholas Wilder la forme incurvée, courbe de la piscine, la façon de détourer aussi les flots, et en même temps, pour l'esthétique du vide, on pensera plus à A Bigger Splash. Le groupe avait souhaité, à la parution de l'album, faire appel à David Hockney, qui avait accepté de réaliser des portraits des membres du groupe, mais pour un prix très élevé, donc le projet sera annulé. Il faut noter donc que le disque sort sur le label de Michel Esteban, donc Rebel Records, et il paraîtra également sur celui de John Cale, qui produit l'album, et un label qui s'appelle Spy. Alors, on peut penser à David Hockney, mais également dans cette filiation pop, à l'importance de Warhol. Historiquement, à Paris, il y a vraiment une cristallisation historique d'une sorte de pop punk, qui va advenir à peu près vers 1979, après le recrutement de Marc Zermati comme programmateur du Palace et la fermeture de l'Open Market. Et c'est en particulier autour de Philippe Morillon que va se fédérer cette scène. Pour aller très vite, hein, on pourrait travailler plus en profondeur, mais il faut noter qu'il va y avoir une validation de Warhol de cette revendication et de cette filiation par le punk ou par la scène du Palace, dans la mesure où Warhol signe la préface du recueil d'illustrations à la peinture à l'aérographie que réalise Morillon en 1981. Patrick Vidal ne revendique pas cependant l'image du Warhol peintre de cour, mais celle de l'artiste multimédia de la Factory qui s'inscrit dans une sorte de contre-culture gay qui englobe également Fassbinder et Jean Genet et qui incidemment va conduire le groupe à s'appeler dans un premier temps Garçon Sauvage, ce que les proches du groupe remettront en cause et en leur proposant de s'appeler Marie et les garçons. Alors la rencontre de Patrick Vidal avec Warhol peut être localisée au début des années 70, à l'adolescence de Patrick Vidal, quand il découvre au CNP Opéra le film de Warhol et de Morisset, Trash, qui, explique-t-il, constituait la première fois il voyait un homme comme Joe D'Alessandro. Et Patrick Vidal va voir le film en boucle, en fait, un peu dans une relation de miroir par rapport au propre cinéma structurel de Warhol. Je continue sur cette avancée à travers les pochettes de disques. En 1980, paraît Ribop, que Patrick Vidal appelle le Lacoste. Entre-temps, le groupe s'est séparé. Et l'album sort quand le groupe a déjà entamé son tournant disco, je vais y revenir, si bien que ce graphisme peut apparaître, il est réalisé en fait par la maison de disques, ce graphisme peut apparaître comme un commentaire rétrospectif, pensé par la maison de disques et non par le groupe, sur le sens que pouvait avoir le style du Quatuor entre 1976 et 1979. Alors je m'explique, pour évoquer leur propre look, Patrick Vidal a évoqué les chaussures de grand-père, qui les faisaient, je cite, ressembler à des moignons. Et la pochette souligne cette communauté d'esprit qui existe aussi entre le groupe et les Talking Heads. Alors il explique sa découverte quand il les voit à Lyon en première partie des Ramones. On les a vus arriver en polo, ça a été une révélation. Fin de citation. Ce que Patrick Vidal perçoit dans le groupe new-yorkais, en fait, à travers l'image, c'est une forme de non-attitude et qui caractérise déjà ce que fait le groupe dans la musique, pour une large part dans leur façon de jouer. Derrière les trois images qu'évoque Patrick Vidal au sujet du look du groupe, donc le moine, les parents ou les grands-parents et les Talking Heads, ressurgit à chaque fois l'idée d'un retrait, l'idée de contenir sa propre subjectivité vis-à-vis des outrances du rock. Il y a vraiment des formes d'assagissement qui apparaissent et qui reviennent, pour eux comme une façon de se construire contre, et plus particulièrement comme une approche du rock qui dominait à Lyon, je cite Patrick Vidal, c'était les clichés, donc on a encore ce terme, les clichés, tels qu'ils étaient transcrits par les rockers lyonnais. Le polo, je vais faire fin de citation, le polo, par son minimalisme, parle de la façon dont la forme de déconstruction du fait musical que le groupe a entrepris, d'abord avec le Velvet Underground, puis dans la fréquentation de la musique disco, va chercher une forme équivalente par l'image, une forme de déconstruction du rock par la culture visuelle, par une culture visuelle beaucoup plus épurée. Contre l'esthétique du rock et sa surcharge de signifiants, le groupe adopte alors un minimalisme qui renvoie à son approche du son, tendue vers une réduction toujours plus grande. Dans ce processus, le disco agit comme une force d'opposition au rock, je cite Patrick Vidal, on a enlevé le plus de choses par opposition au rock, donc forme de résistance ou d'opposition, mais aussi forme de réduction. De cette façon, alors juste pour dire que la référence aux parents, elle apparaît aussi dans l'article Les jeunes gens modernes aiment leur maman, donc 1980, et on a vraiment un changement aussi dans la façon d'appréhender la filiation. On n'est plus dans ce rapport d'écouter la musique des frères ou des sœurs, comme on a pu l'entendre tout à l'heure avec la table ronde animée par François, mais vraiment dans quelque chose où on va chercher une identification aux parents. Et voilà. Bon, alors je passe très vite. Donc ce qui apparaît finalement à travers la pochette tel qu'encodé par la pochette Marie et les garçons autour de l'image du groupe, c'est la question de l'absence qui est centrale dans l'identité de Novo. Donc en 1980, Yves Adrien publie Novo Vision où il fait de l'absence de soi à soi-même un élément récurrent. Donc on voit que la question de l'absence peut être lue en accord avec la qualité sonore du groupe et la façon dont le disco lui-même tendit à affecter leur façon de composer. Dans une distension toujours plus intense du mot, du son et de l'image. L'absence est la condition dans la pensée Novo de l'avènement d'une société faite de doubles. Alors voici Novo Vision, donc une société faite de doubles. Et cet imaginaire du double va être récurrent dans la construction de l'image de l'album Divorce en 1979, qui est assumé par Jean-Charles de Castelbajac. Et donc c'est un projet qui advient après le départ de Marie Girard. Les vêtements de Castelbajac, dans leur emphase sur la liberté de mouvement, transformaient à cette époque l'éthique du vêtement. En rupture avec les fonctions de marqueur du genre, elles devenaient des formes d'utopie. L'image de la société et les fonctions, les valeurs qu'envoyait le vêtement de Castelbajac insistaient sur le nomadisme, sur le confort, sur l'amour ou la performance d'un héroïsme du quotidien, comme en atteste un vêtement qu'il va vraiment mettre en avant, qui est la cape. La confection des trois costumes pour l'album Divorce s'appuie donc c'est une on le voit donc analyse rapide, c'est une photographie nous sommes face à une photographie de Olivero Toscani qui montre le groupe portant des uniformes réalisés par Jean-Charles de Castelbajac sur la base donc d'un tissu photoluminescent qu'utilisaient alors les Brigades Rouges et dont les Brigades Rouges se servaient à des fins de communication et d'identification pour se reconnaître en fait dans la nuit. Voilà, donc je vais en conclusion, dire un mot sur le rapport entre disco et rock. Donc on a quand même assisté à travers cette analyse à l'introduction de références gays qui deviennent un moyen d'intégrer visuellement la diversité. Et précisément, le disco à cette époque représentait au regard du rock une forme de diversité. Les deux avaient des démographies opposées, bon, entre l'une dominée par les Afro-Américains, les Hispaniques et les gays, et celle du punk dominée par un public blanc et hétérosexuel. Et finalement, cette fracture, le groupe va essayer de la mettre en œuvre dans l'album qui conduira au départ de Marie Girard, avec une alternance de morceaux disco, de morceaux rock, mais la maison de disques Phonogramme refusera finalement cette forme de dialectique. Voilà, donc pour finir, si on devait retenir quelque chose, donc on a vraiment affaire à un rapport de négociation permanent vis-à-vis du punk et du rock. Comme l'explique Vidal au sujet du groupe, on n'avait de cesse que de provoquer le public qu'on avait. Je vous remercie.
Merci pour cette présentation intéressante et brillante qui me fait penser à des choses que j'ai pu dire ou que je peux trouver sur Marquis de Sade aussi, un côté assez esthétique et intellectuel, le rapport avec l'art, etc. Pas du tout le même, hein, mais voilà. J'ai vu ce disque hier dans un magasin à Lyon, 70 balles aussi. Bon, on ne le trouve pas facilement. Je crois qu'il n'est même pas réédité en CD. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Merci.